C'est une doctrine qui est secrète. Yézidi, c'est une religion initiatique, ésotérique. On ne peut pas devenir yézidi. Les gens sont yézidis de naissance. Ils appartiennent d'ailleurs à des castes. La doctrine des yézidis qui a fait qu'ils ont été persécutés avec autant de violence par Daesh, c'est qu'ils sont l'héritier d'une religion très ancienne. Et ce que disent les yézidis, ils disent qu'il ne faut pas, qu'il ne sert à rien d'insulter le diable. Au XIXe siècle, le consul anglais de Mossoul a écrit un livre sur les yézidis, dont le titre était « Les yézidis, les adorateurs du diable ». Les yézidis ne vénèrent pas le diable. Et c'est cette réputation d'adorateurs du diable qui vient de cette tradition manichéenne dont ils sont les héritiers, eh bien, c'est cela qui fait qu'aujourd'hui, ils ont été traités par Daesh comme s'ils étaient des animaux, comme s'ils n'étaient pas des hommes.
Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu plus leur situation actuelle, notamment ceux des réfugiés qui ont fui leur région ?
Le problème pour les yézidis, c'est qu'il y a eu les persécutions, il y a eu la fuite de Sinjar, il y a eu l'encerclement sur la montagne de Sinjar, et puis il y a eu l'exil dans des camps de réfugiés pour des dizaines de milliers de yézidis. Et hélas, grande désillusion, celle de retrouver Sinjar détruite et minée, et donc une ville où il n'est pas possible de revenir habiter. Et aujourd'hui, les yézidis sont dans cette situation terrible, qu'ils continuent à vivre dans des camps de réfugiés, alors que leur ville, Sinjar, a été libérée. Et puis, il y a aussi la difficulté politique de la zone de Sinjar. Les Kurdes sont confrontés à un triple problème, un problème humanitaire parce qu'ils continuent à vivre dans des camps de réfugiés, un problème de sécurité très concret parce que la ligne de front et le minage de Sinjar en font une ville encore dangereuse, et enfin un problème politique parce que Sinjar fait partie des territoires disputés que réclame la région autonome du Kurdistan, mais que le gouvernement central irakien ne veut pas abandonner.
Et dans cette région, les yézidis bénéficient-ils de la protection d'organisations existantes ou des pays environnants ?
La situation est très compliquée, en fait, dans cette zone, et en particulier dans celle de la montagne de Sinjar, puisqu'il y a des peshmergas d'Erbil qui sont présents, et en fait, sont constituées plusieurs milices yézidis dans cette zone-là, des milices yézidis qui ont différentes affiliations politique, un patchwork politique qui ne facilite pas l'arrivée de l'aide humanitaire.
On a entendu parler de la manifestation d'une résistance armée des yézidis. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, c'est une résistance qui a été vraiment héroïque. Lorsque Daesh est entré dans Mossoul le 3 août, il y a des centaines d'hommes qui se sont sacrifiés pour que les habitants de la ville de Sinjar puissent aller se réfugier dans la montagne. Des hommes voilà, qui ont retardé l'avancée de Daesh et qui ont permis de sauver des dizaines de milliers de femmes, d'enfants, de civils. Vraiment, le courage des yézidis durant cette bataille de Sinjar est quelque chose d'édifiant. Il faut aussi parler du courage des yézidis qui ont résisté sur la montagne de Sinjar. Il faut savoir que Daesh, plusieurs fois, a voulu s'infiltrer sur la montagne. Et c'est dans des combats au corps à corps, des combats rapprochés dans la montagne, que les yézidis ont à chaque fois réussi à repousser Daesh.
Face à cette situation, que peut-on dire du regard de la communauté internationale et de sa mobilisation ?
Alors, vous l'avez vu, l'ONU a sorti un rapport au mois de juin sur la situation des yézidis. Ce rapport conclut, hélas, ce que nous savions déjà un petit peu, savoir qu'il y a environ 3200 femmes qui sont toujours aux mains de Daesh. Et là-dessus, l'ONU prend la parole, mais c'est vrai qu'on peut s'interroger aussi sur les moyens qui sont mis en œuvre. Moi, je crois que quand les soldats américains sont capables de mener un commando derrière la ligne de front pour aller libérer des soldats kurdes, eh bien, ils doivent aussi être capables de le faire pour des femmes yézidis. Voilà ce que les yézidis demandent. Ils ont un peu un sentiment d'abandon, ils ont un peu l'impression que les puissances armées occidentales ne mettent pas les moyens qu'il faut et qu'à certains moments, on savait où étaient détenues des femmes yézidis. Des opérations auraient pu être menées pour les libérer et cela n'a pas été le cas.
On sait également enfin que la communauté yézidi cherche l'autonomie. Est-ce que vous pouvez nous donner les moyens par lesquels elle pourrait l'obtenir ?
La question d'une zone autonome yézidi, elle est compliquée parce que ça veut dire, est-ce que cette zone, elle englobe le peuplement yézidi de la plaine de Ninive, est-ce que c'est uniquement pour Sinjar? Est-ce que c'est pour les deux? Puis ensuite, il y a une question politique. S'il y avait une zone autonome yézidi, est-ce que cette zone autonome yézidi, elle serait autonome à l'intérieur de la région du Kurdistan, ou est-ce que ce serait dans le cadre du gouvernement central irakien? La troisième question est peut-être la plus compliquée, parce que les yézidis sont divisés, parce qu'il y a plusieurs milices yézidis avec plusieurs affiliations politiques. Qui dirigerait cette zone? Comment serait-elle administrée?